Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Frédéric Lantieri et moi, l'histoire de Tony Meillon, la mauvaise rencontre de Laetitia. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit par Guillaume Maury, réalisé par Bernard Farou. Bonne écoute. Journal télévisé du 22 janvier 2011.
À son arrivée au palais de justice de Nantes cet après-midi, Tony Meillon sait que l'étau se resserre autour de lui. Mis en examen pour enlèvement suivi de mort et viol, il risque la prison à perpétuité à 31 ans.
Avant son interrogatoire de première comparution devant le juge, Tony Meillon rencontre un avocat commis d'office. Un entretien sous haute surveillance.
Maître Sébastien Chevalier, avocat commis d'office de Tony Meillon.
On a pu s'entretenir quelques instants dans les geôles du quatrième étage du tribunal avec cette consigne de laisser la porte ouverte, ce qui est assez insolite, pour un entretien confidentiel. Mais au vu de sa dangerosité potentielle, la porte était ouverte et les quatre membres du JPN étaient présents armé jusqu'aux dents. Et la seule chose qu'il me dit, c'est qu'il n'a pas besoin de moi pour mentir, de sorte qu'il n'a pas besoin d'avocat et qu'il n'en veut surtout pas. J'insiste un peu et on en reste là puisqu'il refuse catégoriquement.
Il passe à entretenir avec un avocat et il n'en a pas eu.
Après s'être débarrassé de son avocat, Tony Meillon patiente dans les geôles du palais de justice de Nantes. Il se croit seul. Quand un gendarme de l'escorte l'entend chanter. Des aveux en chanson.
Colonel Fabrice Bouillet, commandant de la section de recherche d'Angers.
Il va pousser effectivement une chansonnette. Je demande à un des gendarmes d'enregistrer cette chansonnette et de partir, moi, vers le juge d'instruction, lui demandant de se dépêcher de venir entendre les révélations spontanées de Tony Meillon.
La teneur de cette chanson était essentiellement sur le bon temps, du bon temps qu'il avait passé avec Laetitia, son petit corps. Comme c'était bon, que si c'était à refaire, ça serait fait, il le referait et qu'on en découvrirait d'autres.
Les propos, c'est que, grosso modo, là où je t'ai planqué, ils ne te retrouveront jamais. Il a été tellement taiseux pendant sa garde à vue qu'on a l'impression d'une délivrance alors qu'il se croit seul dans sa geôle et il rentre dans une sorte de ce que nous qualifions de délire à ce moment-là, mais un délire que je qualifierais presque de conscient où il va donner une certaine version en fait, des faits.
Le juge voudrait bien recueillir officiellement des aveux, en chanson ou pas. Mais Meillon décide de s'en tenir à la version qu'il a donnée aux gendarmes, celle d'un accident malheureux. Il n'a ni violé, ni découpé Laetitia Perret. Quant à dire où se trouve son corps, pas question. À la justice de se débrouiller.
Pierre-François Martineau, juge d'instruction, tribunal judiciaire de Nantes.
Des moyens énormes ont été mis en œuvre pour essayer de la chercher, des moyens aériens, des moyens aquatiques, subaquatiques, un sonar qui a été prêté par l'armée suisse pour draguer tous les plans d'eau et la Loire.
Des centaines d'étangs et de carrières remplies d'eau sans la moindre trace de Laetitia. Du coup, le commandant Bouillet essaye une autre méthode. Tony Meillon semble bien s'entendre avec l'un des gendarmes de son escorte. Il évoque souvent avec lui l'avancée des recherches.
Je vais demander à ce que ce soit cet officier qui assure toutes les extractions de Tony Meillon, sous prétexte que potentiellement il peut nous délivrer un certain nombre d'informations complémentaires.
Il nous a envoyés sur des fausses pistes, systématiquement. Je pense avec un petit peu de test, de voir comment on réagissait, je veux pas dire d'amusement, mais en tout cas de voilà, ou de curiosité. Enfin, en tout cas, il nous a lancé sur des mauvaises pistes.
Les gendarmes ne comptent plus sur lui pour retrouver le corps. Alors que la famille de Laetitia espère encore attendrir Tony Meillon.
Maître Pascal Rouillet, avocat de la famille d'accueil de Laetitia Perret.
On a eu l'idée que peut-être devant les larmes de la famille qui l'accueillait, devant cette famille effondrée, devant les larmes de sa sœur jumelle qui est effondrée par ce qui se passe, peut-être qu'on va atteindre sa part d'humanité et obtenir qu'il nous dise, parce que ça change pas radicalement les choses, où est le corps de Laetitia.
Journal télévisé du 29 janvier 2011.
Toute une famille, des amis et des proches unis dans la douleur. Cet après-midi, plus de 2000 personnes se sont rassemblées. Rose blanche à la main, ils ont parcouru le dernier chemin emprunté par Laetitia, la nuit de sa disparition.
Gilles Patron, le père d'accueil de Laetitia Perret dans le journal télévisé.
Ton calvaire au cours de ces derniers moments sera maintenant notre souffrance de tous les jours. Nous te promettons de ne pas lâcher notre combat. Nous continuerons pour toi. Nous t'aimons.
Maître Pascal Rouillet, avocat de la famille d'accueil de Laetitia Perret.
Il ne peut pas, en voyant ces images, en voyant les images de cette marche, continuer à se taire. Ou alors il faudra que demain la justice en tire toutes les conséquences quant à sa perversion la plus absolue et son niveau de dangerosité.
Eh bien, malgré tout cela, malgré ses efforts, c'est un échec. Tony Meillon ne dira rien.
Une tête de bois qui ne veut rien savoir. Un homme qui n'a rien appris de ses erreurs précédentes. La colère monte chez les proches de Laetitia.
Journal télévisé du 14 janvier 2011.
Une seule question revient aujourd'hui dans l'entourage de Laetitia. Pourquoi Tony Meillon, principal suspect, était-il en liberté ?
Gilles Patron, le père d'accueil de Laetitia Perret dans le journal télévisé.
Il n'a pas le droit de sortir. Alors, la justice, elle est où, là ? C'est les juges, ce sont... Le juge qui l'a laissé sortir est un assassin pour moi.
Tony Meillon était recherché depuis le 4 janvier dernier. Motif ? Sous le coup d'une peine d'emprisonnement avec sursis, il devait se présenter régulièrement à la justice, mais il ne l'aurait pas fait depuis 3 mois.
Michel Patron, maire d'accueil de Laetitia Perret, dans le journal télévisé.
Ça ne peut pas exister. On ne peut pas laisser dehors des gens qui sont potentiellement dangereux. Il faut revoir tout ça et on ne peut pas mettre dehors des assassins.
Quand la presse publie le rapport des experts judiciaires qui avaient rencontré Tony Meillon 9 ans plus tôt lors de son dernier braquage, la polémique enfle encore. Les experts soulignaient à l'époque son extrême dangerosité.
Maître Emmanuel Foucré, avocate d'une victime de Tony Meillon.
Il est assez rare d'ailleurs que ça soit pointé d'une manière aussi nette, tant par le psychologue expert que par le psychiatre expert. Les deux disent « attention, il y a une dangerosité qui est nette, certaine, avec une possibilité de récidive ».
Une crainte que la famille de Tony Meillon partageait. Elle avait même alerté les gendarmes avant sa sortie de prison.
La mère de Tony Meillon.
On a fait tout ce qu'on pouvait pour qu'il ne ressorte pas, vu les menaces qu'on a eues au téléphone de la prison, puisqu'il avait un portable. Il y avait des propos, menaces de mort. Hein. Carrément, les menaces de mort. Hein. Malheureusement, la gendarmerie n'a pas pris nos souffrances et notre désarroi en conséquence.
Tony Meillon est donc sorti de prison en février 2010, un an avant la disparition de Laetitia.
Et là, tout s'est dégradé rapidement. Il a commencé à poursuivre aussi mon ex-belle-fille en voiture. Il a voulu l'écraser. Mon ex-belle-fille a porté plainte. Et après, il s'en est pris à mon autre fils.
Julia, la sœur de Tony Meillon.
Il est allé un soir chez mon grand frère. Les petits lapins de ma petite nièce étaient dehors. Il a égorgé les lapins.
Les lapins. Le geste sadique d'un homme qui voulait punir sa famille.
Il a eu le temps de mûrir toute cette haine. Et puis comme depuis une année, on ne lui parlait plus. Parce que pour la première fois, on lui a dit non. Et ça, c'était jamais arrivé. On disait oui à tout. Il s'est dit, mince, ma mère et ma sœur, elles me lâchent là. Sauf qu'à un moment donné, nous... Ben, on pouvait pas sacrifier notre vie pour Tony, quoi.
On savait qu'il se serait passé quelque chose de grave. Mais franchement, je pensais pas qu'il aurait fait ça sur une jeune fille. Je pensais plutôt qu'il s'en serait pris qu'à moi, en fait. Le moment venu.
La famille de Laetitia ne comprend pas. Tous les voyants étaient au rouge. Comment cet homme a-t-il pu être ainsi lâché dans la nature ? Sa colère est entendue au plus haut sommet de l'État.
Nicolas Sarkozy, journal télévisé du 25 janvier 2011.
La récidive criminelle n'est pas une fatalité. Et je ne me contenterai pas d'une enquête sans suite. Je le dis très sereinement, mais il n'y aura pas une enquête de plus. On dira aux Français que tout a été parfait, sauf une petite jeune fille qui ne demandait qu'à vivre et qui a disparu.
Des déclarations approuvées par la famille qui regrette sur place que l'enquête n'avance pas.
Gilles Patron, père d'accueil de Laetitia Perret, journal télévisé du 25 janvier 2011.
C'est bien. Il faut qu'ils mettent justement les moyens pour que ça se reproduise plus, c'est tout.
Maître Pascal Rouillet, avocat de la famille d'accueil de Laetitia Perret.
La famille Patron, c'est la famille de victimes numéro 1. Et Tony Meillon, sur les réseaux sociaux, est l'ennemi public numéro 1 à l'époque.
Le 31 janvier 2011, après 12 jours de recherches infructueuses, Nicolas Sarkozy reçoit à l'Élysée la famille d'accueil de Laetitia.
L'échange est chaleureux, l'échange est très humain, l'échange va durer extrêmement longtemps. Mais rapidement, on quitte le terrain de l'émotion pure pour un autre terrain, qui est celui de la question de savoir s'il y a eu ou pas des dysfonctionnements côté police ou gendarmerie, côté justice, qui expliqueraient que malheureusement, le drame que l'on connaît à ce moment-là ait pu avoir lieu.
Ondine Millot, journaliste à Libération.
On est à un an et quelques mois de la présidentielle. Est-ce que c'est pour ça que Nicolas Sarkozy, comme ça, s'exprime fortement à l'occasion des faits divers? C'est possible. Il y a des gens qui l'ont analysé comme étant une stratégie soit de diversion par rapport à d'autres problèmes économiques, chômage, etc., soit en tout cas de mobilisation comme ça de l'opinion publique autour d'une ferveur et d'une émotion, puisque l'émotion est légitime face à la disparition de Laetitia.
Tandis que la famille Patron pleure Laetitia à l'Élysée, les gendarmes poursuivent leurs fouilles avec une technique qui a souvent porté ses fruits.
Pour mieux cibler leurs recherches, les gendarmes tentent d'entrer dans la tête de Tony Meillon.
Pierre-François Martineau, juge d'instruction, tribunal judiciaire de Nantes.
Par les auditions de sa famille, les gendarmes ont déterminé ce qu'on appelle des zones de confort, c'est-à-dire les zones où la personne qui est en panique, qui est sous pression, qui est soumise à des forces psychiques énormes, vu l'acte qu'elle a commis d'homicide, sont des zones qu'elle va privilégier pour se débarrasser du corps parce qu'elle s'y sent en sécurité. Donc partant de là, des zones comme ça ont été recherchées, donc les plans d'eau dans lesquels il pêchait, il allait enfant, etc., etc.
Il a eu une carte de pêche à Lavaux-sur-le-Loire. Donc on va concentrer nos efforts sur ce secteur-là.
Colonel Fabrice Bouillet, commandant de la section de recherche d'Angers.
Donc les plongeurs cherchent à tâtons, le fond est assez vaseux et glauque, et ils vont tomber sur une nasse en grillage à poule, qui fait une taille assez réduite, lestée par un parpaing. Et ils vont le remonter, quand il remonte à la surface, c'est une découverte macabre. On va découvrir la tête, les bras et les jambes de Laetitia Perret. Laetitia, d'ailleurs, est reconnaissable.
L'horreur. Mais il manque encore le tronc de Laetitia. Et c'est essentiel pour un médecin légiste s'il veut comprendre ce qui s'est passé, déterminer les causes de la mort. Le juge convoque de nouveau Tony Meillon.
Il n'a pas réagi, il n'a rien manifesté, il a... Tony Meillon a un physique en plus assez lisse, très peu expressif. Et non, il n'a pas souhaité s'expliquer, il n'a rien souhaité nous dire, mais sans même nous dire, non, j'ai pas envie de répondre à vos questions, il a juste gardé le silence.
On apprend, le choc est terrible, qu'il s'agit d'un corps démembré, qui n'est pas reconstituable en totalité. Et à ce moment-là, Madame Patron s'effondre, Gilles Patron part en larmes. C'est un moment terrifiant. C'est une forme de libération parce que on retrouve Laetitia. À ce moment-là, la sépulture est envisageable. Et à la fois, on découvre, dans le détail, on imagine, et il n'y a rien de pire que l'imagination dans ces moments-là, ce qu'elle a pu subir avant d'être découpée en morceaux.
Franck Perret, j'imagine que c'est un moment particulièrement difficile pour vous.
Oui, parce que ce jour-là, tout d'un coup, j'ai mon ex-avocat. Il m'avertit qu'il a retrouvé la tête et les bras de ma fille. J'ai dit, j'étais en voiture, j'étais déjà affolé. 10 minutes, un quart d'heure après, un commandant de gendarme qui me téléphone. Pareil, qui m'avertit qu'il avait retrouvé la tête et les bras. Je suis arrivé sur les lieux, il y avait mon beau-frère, journaliste, bien sûr. Et il y avait le procureur de la République qui était là, qui avait visité voir si c'était bien Laetitia. Et on ne pouvait pas aller plus loin, de toute façon, on était interdit. De toute façon.
Vous aviez encore, vous, l'espoir de retrouver Laetitia vivante?
Oui, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'on retrouve, qu'on nous dise, au niveau de l'ADN, que c'était Laetitia. On n'a pas laissé Laetitia de côté, on n'a pas dit non, on ne va pas chercher, on a cherché partout. Dans les bois, imaginez. Dans le noir, dans les caves, dans les fermes abandonnées, dans les caravanes. On a fait des appels, on a fait des... J'avais une appréhension, en fin de compte. J'avais la peur aussi. Je voulais chercher ma fille à tout prix, la retrouver. Mais la peur de retrouver dans quoi et comment.
La découverte du corps démembré attise encore la polémique qui gagne toute la France, et particulièrement le monde judiciaire, quand le président de la République intervient.
Journal télévisé du 3 février 2011.
Ça, c'est le bâton télescopique.
Ballon télescopique.
Et vous en servez aussi beaucoup.
Ça arrive.
Le thème du jour, c'est la prévention de la délinquance. Mais l'affaire du moment, celle que le chef de l'État évoque dans presque chacune de ses interventions, c'est le meurtre de Laetitia. Dans la police comme dans la justice, affirme-t-il, il y a eu des dysfonctionnements.
Quand on laisse sortir de prison un individu comme le présumé coupable, sans s'assurer qu'il sera suivi par un conseiller d'insertion, c'est une faute. Ceux qui ont couvert ou laissé faire cette faute seront sanctionnés.
Les propos du chef de l'État créent un énorme tollé.
Les magistrats du tribunal de grande instance de Nantes dénoncent l'amalgame fait par les plus hautes autorités de l'État.
Pour la première fois de leur histoire, les magistrats nantais ont cessé le travail et suspendu les audiences. Leur mise en cause par Nicolas Sarkozy suscite une profonde indignation.
Anne-Hélène Dorisson, journaliste à Presse Océan.
Levée de bouclier dans le monde judiciaire. Très rapidement, le service pénitentiaire d'insertion et de probation va dénoncer un manque de moyens cruel. Va faire état du nombre de dossiers qui sont en souffrance. Ils sont très exactement, je m'en souviens, 897 à l'époque. Celui de Tony Mellon est considéré comme ne faisant pas partie des dossiers ultra prioritaires, puisque, rappelons-le, il fait l'objet d'un suivi pour un outrage à magistrat à l'époque.
2 ans plus tôt, Tony Mellon avait insulté l'un de ses juges.
Ondine Millot, journaliste à Libération.
Cette infraction d'outrage à magistrat, par rapport à des sortants de prison qui avaient commis des infractions sexuelles, des infractions sur des mineurs, elle ne leur semblait pas prioritaire pour le convoquer à un rendez-vous. Donc, ils ont d'abord convoqué les délinquants sexuels, les infractions estimées plus graves, plus propices à une récidive. Et puis, Tony Mellon, il allait être convoqué quand ils auraient le temps.
S'indigne une nouvelle...
Le mouvement s'étend, des magistrats de toute la France se mettent en grève.
André Valigny, député PS de l'Isère, dans le journal télévisé du 25 janvier 2011.
Je ne sais pas si M. Sarkozy a dans la tête de faire voter une nouvelle loi, une de plus, mais ce n'est pas avec des lois qu'on fera reculer la récidive. C'est avec des moyens financiers et humains que l'on donnera à la justice.
Une journaliste de Libération enquête alors pour savoir quelle infraction Tony Meillon a-t-il commise. Pourquoi est-il considéré comme récidiviste ? Elle se procure un extrait de son casier judiciaire et découvre le crime que le chef de l'État rapproche de l'affaire Laetitia.
Ondine Millot, journaliste à Libération.
À 16 ans, Tony Meillon, effectivement, a commis des faits qui peuvent être qualifiés de viol en réunion, c'est-à-dire avec d'autres personnes, en prison. Il est donc avec des co-détenus et ils font subir une sorte de rite de punition. Ils ont enfoncé un objet dans l'anus d'un co-détenu qui, lui, est délinquant sexuel et auteur de viol. Donc c'est des faits extrêmement graves, effectivement, mais une personne qui a suivi Tony Meillon, qui s'est occupée de sa réinsertion, dit « mais pour nous, il n'y a pas une logique, forcément, entre ça et un prédateur sexuel sur des jeunes filles. » Puisque ça, c'est plutôt un rite de violence contre, justement, un pointeur en prison. Donc, les déclarations de l'Élysée ont été sans doute trop hâtives et ça a été un raccourci.
Tandis que la polémique bat son plein, un homme se délecte de ce tapage médiatique. Il est en prison, c'est Tony Meillon.
Pierre-François Martineau, juge d'instruction, tribunal judiciaire de Nantes.
L'affaire a été surmédiatisée. Tony Meillon est devenu l'homme qui est qualifié de monstre par le chef de l'État sur les chaînes de télé, dans le journal télévisé. Meillon est devenu l'homme qui a mis le monde judiciaire, la France entière, dans la rue. Donc, sur une personnalité déjà mégalomaniaque dans la toute-puissance, je pense que ça a renforcé. Je pense qu'il a pu s'enfermer dans ce personnage-là. Je pense que ça a accentué des traits qu'il présentait déjà. Mais également, peut-être, que finalement, il n'a fait que se couler dans le costume qui lui était taillé par ce contexte et par les déclarations qui étaient faites dans les médias à son sujet.
Caparaçonné dans ce costume de monstre, Meillon joue son rôle à fond. Il refuse d'aider les gendarmes à retrouver le tronc de Laetitia. Et il n'offre aucune faille au juge d'instruction.
Ça n'a pas permis de créer vraiment une relation, d'entrer en relation avec lui tel que ça peut être nécessaire, hein, entre un juge d'instruction et une personne interrogée pour avoir finalement un interrogatoire qui est constructif. Et ça n'a rien arrangé, ça a pu contribuer à l'enfermer dans ce rôle d'ennemi public.
Maître Ben Brahim, vous êtes l'avocat de Tony Meillon. Une polémique a éclaté sur le cas de votre client. Alors, est-ce qu'il était récidiviste ou pas ?
Techniquement, il était récidiviste. Mais en réalité, ce n'est pas une vraie récidive. On lui a reproché une récidive en ce sens, non pas qu'il ait commis des faits similaires, mais en ce sens qu'il avait déjà été condamné par une cour d'assises. C'est en cela qu'il était récidiviste.
En matière criminelle, en fait, il n'y a pas besoin que les faits soient les mêmes, c'est ça ?
Non, tout à fait.
Il en pensait quoi, votre client, de cette polémique ?
Ça a probablement eu une influence sur lui d'être aussi exposé. Je pense que ça a peut-être joué sur son ego ou sur l'illusion qu'il pouvait avoir une quelconque importance différente de celle qu'il peut avoir dans la réalité.
Cet outrage à magistrat pour lequel il était en contrôle judiciaire, c'était quoi exactement ?
C'est une audience concernant son enfant devant juge pour enfant. Et l'audience se passe assez mal, et c'est dans ce sens-là qu'il va s'en prendre au magistrat et qu'il y aura un outrage à magistrat. Mais ça concernait uniquement son enfant et ça concernait uniquement sa position pour la défense de son fils.
Est-ce qu'il y a eu en fait un problème avec son contrôle socio-judiciaire ?
La réponse est clairement oui, puisqu'effectivement, le contrôle judiciaire dont il faisait l'objet aurait dû être d'un certain type. Mais une mauvaise lecture a été faite de son dossier, il a été classé dans les dossiers non prioritaires et rangé dans une armoire. Donc, il n'était plus contrôlé.
Donc, ce n'est pas du tout de son fait à lui ?
Pas du tout. Non, non, pas du tout.
Dominique Meillon est muet, mais la découverte macabre d'une promeneuse va faire avancer l'enquête.
Oui, le 9 avril 2011, c'est 4 mois après la disparition de Laetitia, cette promeneuse découvre dans un étang de Port-Saint-Père, à 28 km de Pornic, un tronc humain attaché à un parpaing avec une cordelette noire. L'expertise ADN confirme qu'il s'agit bien d'une partie du corps de Laetitia.
Le corps est entier, on peut procéder maintenant à une autopsie.
Le corps est très abîmé, néanmoins, les experts vont découvrir 44 plaies à l'arme blanche, dont certaines ont traversé le cœur, les poumons et 5 plaies vitales au visage. La corne thyroïdienne ici a été cassée, ça veut dire qu'on l'a étranglée. Donc le légiste écrit que c'est le premier geste commis par l'agresseur de Laetitia, le geste de mise à mort. Elle s'est défendue avec acharnement. Elle a des traces de coups sur les mains et sur les bras.
Mais Meillon a dit en garde à vue qu'elle était morte au moment de l'accident.
Eh bien, il ment, Frédéric. Il ment, puisque le légiste écrit « On observe plusieurs lésions péri- ou post-mortem sur l'ensemble du corps de Laetitia. Meillon s'est acharné sur elle alors qu'elle était encore vivante et il s'est aussi acharné sur elle après sa mort. »
Est-ce qu'elle a été victime d'une agression sexuelle ?
On ne le sait pas, Frédéric. L'examen des parties génitales de Laetitia ne permet pas d'en avoir confirmation. En revanche, on retrouve un liquide prostatique avec un profil génétique identique à celui de Tony Meillon. Dans la bouche de Laetitia, il a pu lui imposer une fellation.
Est-ce qu'on peut définitivement confondre Tony Meillon ?
On a les analyses sur le corps, Frédéric, mais on a aussi des indices précieux. Le grillage dans lequel est retrouvé le corps, une partie du corps de Laetitia, c'est exactement le même grillage que celui qu'on retrouve au domicile de Tony Meillon. Et puis, sur les cordelettes noires qui maintiennent le parpaing autour du tronc retrouvé de Laetitia, eh bien, sur ces cordelettes, il y a l'ADN de Tony Meillon.
Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Faites entrer l'accusé consacré à Tony Meillon, la mauvaise rencontre de Laetitia. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 3. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction ou dans l'autre.
Sur le coup, je pensais pas qu'il était mort parce que je voyais pas de sang, on voyait rien, quoi, en fait. Sébastien s'est jeté sur son père.
L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac, vous les connaissez toutes, ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où, découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires. Ils me racontent et vous racontent ce qu'ils ne pourront jamais oublier.
L'instant où, un podcast BFM TV raconté par Dominique Rizet.